RCF.
Bonjour à tous et à toutes. Dans une émission précédente, Laurence Perrin a défini la santé mentale au travail, ses impacts sur la productivité et nous a présenté la neuropédagogie sensorielle. Aujourd'hui, Johanna Rivière et Caroline Schuster nous expliquent comment prendre soin de sa santé mentale au travail, les actions individuelles, mais aussi les actions proposées par les entreprises. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace. Bienvenue dans cette nouvelle émission.
Polychrome pour s'épanouir au travail, présenté par Amandine Borne sur RCF Alsace.
Bonjour chères auditrices et bonjour chers auditeurs. Et bien évidemment, bonjour Johanna Rivière et bonjour Caroline Schuster.
Bonjour Amandine.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît, nous dire qui vous êtes ?
Alors Johanna Rivière, je suis dirigeante de la société Propulse Up, consultante en management des relations humaines et également formatrice en premier secours en santé mentale.
Bienvenue Johanna.
Merci Amandine.
Caroline Schuster, je suis fondatrice d'Equanime Plus et j'accompagne les entreprises dans l'élaboration et la mise en place d'une stratégie de prévention en santé mentale. Et je suis également formatrice en premier secours en santé mentale.
Bienvenue Caroline. Alors aujourd'hui, Johanna et Caroline, vous allez nous parler de santé mentale en entreprise. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est pour vous le bien-être au travail ? Johanna, par exemple, c'est quoi pour vous le bien-être au travail ?
Alors pour moi, c'est avant tout un état émotionnel qui est ressenti individuellement par chaque personne. Et il est vraiment, il est défini par des ressentis ou des émotions internes. Pour moi, c'est la joie, la joie de vivre. Et il passe également par les relations que je peux entretenir avec mon entourage.
Ça tombe bien puisque le slogan de RCF, c'est la joie se partage, donc le bien-être au travail, ça se partage aussi. Caroline, c'est quoi pour vous la définition du bien-être ?
Oui, alors effectivement, je vais rebondir, c'est vraiment ce qui va faire qu'on se sent bien au travail. Se sentir bien repose sur trois piliers. Il va y avoir les conditions de travail, typiquement comment est-ce que mon environnement de travail est aménagé, l'organisation du travail en termes de temps, en termes de charge, en termes d'organisation de tâches, et effectivement le volet culture d'entreprise, climat de confiance et tout cet aspect relationnel auquel Johanna faisait écho, qui est pour moi un des plus importants, car de bonnes relations vont pouvoir avoir une influence potentiellement sur l'aménagement, sur l'organisation du travail, ce qui ne va pas forcément être le cas dans l'autre sens, parce qu'on peut avoir un très beau bureau, un superbe espace. Si les relations ne fonctionnent pas, on peut se sentir pour autant pas bien au travail.
Merci pour ce partage. Et alors, c'est quoi la santé mentale pour vous, Caroline ?
Alors pour moi, la santé mentale, c'est une composante de notre santé. On a une seule santé, c'est une santé physique et mentale. Il y a un autre point que je voudrais adresser par rapport à votre question, Amandine, c'est quand on parle de santé mentale, on va souvent se référer en fait à la maladie mentale. On va tout de suite activer quelque chose de « c'est la psychiatrie, c'est le grand drame, rien ne va », quelque chose potentiellement de très impressionnant, de très visible. Or, la santé mentale n'est pas la maladie mentale. Et si on prend la définition de l'OMS, c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Donc on voit bien que là on est dans un état d'épanouissement et non dans cet aspect maladie mentale.
Donc la santé mentale est bien différenciée de la maladie mentale, et la santé mentale finalement ce serait être bien dans son poste de travail, être bien dans son environnement de travail.
Tout à fait.
Et j'ajouterais, c'est un état dynamique qui peut à la fois se détériorer mais s'améliorer en fonction de situations que l'on rencontre dans notre quotidien et par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Et pour faire le rapport avec la santé au travail, eh ben, on parle du contexte professionnel qui est un facteur protecteur ou à risque pour la santé mentale.
Protecteur ou à risque, mais alors pourquoi c'est important pour les entreprises de prendre en considération la santé mentale de leurs collaborateurs ?
Alors déjà, c'est une obligation.
D'accord.
Préserver la santé mentale des équipes, c'est une obligation légale de l'entreprise en vertu du Code du travail. La loi aussi santé au travail du 2 août 2021 impose aux entreprises davantage de prévention sur ce sujet dans un environnement, on le sait, hein, qui a été dégradé notamment par la crise Covid. Donc il y a ce premier volet, c'est effectivement une obligation légale. Et quand on va demander aux salariés, quand on les interroge, on voit que 2/3 des salariés se déclarent en situation de mal-être psychologique, selon les derniers baromètres de 2023. C'est également la première cause d'arrêt maladie aujourd'hui, selon ce même baromètre 2023 de la santé mentale au travail de ProConsult. Évidemment, il y a un retentissement fort pour les entreprises. Donc déjà, les salariés, eux, se déclarent pas bien, ce qui a un retentissement en termes de coûts pour les entreprises, qui est estimé à 3 000 € par an et par salarié, toujours d'après ce même baromètre. Donc on voit que là, les chiffres sont assez alarmants. Et j'ajouterai un dernier point qui est aussi en termes de considération des nouvelles attentes des salariés, et notamment des salariés les plus jeunes. On voit que eux attendent vraiment cette attention à l'autre et en termes de valeur et de sens, de poser la santé mentale comme quelque chose d'important dans une prise de poste et dans le fait d'intégrer une entreprise. On l'a vu surtout chez les jeunes. Nous avons travaillé sur des ateliers avec notamment des bureaux de représentants d'étudiants ici en local et qui nous ont fait part vraiment de ces attentes futures pour eux, puisque c'est les futurs salariés de demain en matière d'entreprise et d'attentes sur le monde du travail.
Donc un intérêt en termes de marque employeur, c'est-à-dire ce qui va être perçu de la part de l'entreprise, un intérêt bien évidemment aussi en termes de performance et puis de prendre soin de la santé des collaborateurs puisque c'est aussi une obligation. Alors qu'est-ce que les entreprises peuvent mettre en place? Quels sont des dispositifs ou des initiatives qui peuvent être mises en place pour favoriser cet environnement de travail sain?
Alors tout d'abord, moi je pense qu'il est important de favoriser la communication dans les entreprises. Trop souvent, il y a peu de communication. Pour cela, on peut commencer par poser un cadre sécurisant pour les collaborateurs. Donc ce cadre permet à chacun de s'exprimer librement et sans jugement. Par rapport à ça, on peut mettre en place des règles de vie au sein des équipes, sur le fait de devoir se respecter, d'arriver à l'heure, d'avoir le même cadre de référence. Mais effectivement, on peut aussi mettre un certain nombre de choses pour favoriser l'expression des points de vue divergents. Et donc le fait de pouvoir attendre que quelqu'un finisse de parler, par exemple, pour prendre la parole. Mais effectivement, tout ce qu'on peut remettre en place sur ce que je viens de vous dire va permettre à chacun de se sentir respecté et aussi, du coup, de se sentir en confiance, ce qui est aujourd'hui très important pour chaque collaborateur, pour pouvoir donner le meilleur de soi-même.
Pressure.
Des professionnels transforment votre quotidien. Vous écoutez Polychrome pour s'épanouir au travail sur RCF Alsace.
On aborde aujourd'hui le sujet de la santé mentale en entreprise et pour cela je suis accompagnée de nos invités Johanna Rivière et Caroline Schuster. On vient d'aborder la santé mentale d'un point de vue d'entreprise. On a vu que c'est une obligation et qu'il y a différents leviers. Ça va permettre aussi une meilleure cohésion, une meilleure performance et ça va participer à la marque employeur. Mais alors, d'un point de vue collaborateur, quelles sont des actions qui peuvent être mises en place en entreprise par les collaborateurs pour qu'ils puissent prendre soin de leur santé mentale?
Alors, si on prend le prendre soin de soi, déjà, qu'est-ce que c'est? C'est s'autoriser quelque part à s'occuper de soi. Et souvent, on confond ça finalement avec de l'égoïsme, le fait d'être auto-centré, d'être égocentrique. C'est pas du tout la même chose. Si on réfléchit, c'est comme la consigne de l'avion. On positionne toujours son masque avant de pouvoir aider quelqu'un à mettre son masque, même si c'est un enfant ou son enfant. Donc cette idée de prendre soin de la santé mentale, c'est vraiment d'essayer de se maintenir dans un équilibre psychique ou mental. Je vais pas pouvoir pour autant empêcher certains événements désagréables ou négatifs d'arriver. Je peux apprendre à mieux les vivre. Donc comment est-ce que je peux faire?
C'était ma question, comment on fait justement?
Comment on fait? Donc c'est vraiment cette idée de s'accorder du temps. Donc à titre individuel, on va vraiment pouvoir apprendre à connaître son fonctionnement pour pouvoir agir quand il y a des difficultés. Et au niveau, si on prend vraiment la question là en entreprise, c'est de s'entourer, de maintenir et d'entretenir des relations, donc à l'extérieur de l'entreprise avec nos amis, notre famille, et en collectif, en collaboratif au sein de l'équipe. Là, ça va être d'identifier les situations problématiques et d'essayer, hein, les relations ont été mentionnées, vraiment de communiquer avec ses équipes, son manager pour essayer de trouver ensemble les solutions.
Donc ce que vous nous dites, Caroline, c'est au quotidien, on peut prendre soin de soi. D'accord, c'est très bien, on peut mettre en place différentes actions. Et comment je fais pour repérer les signes d'épuisement ou de malaise? Parce que même si je prends soin de moi, à un moment donné, je suis dans une routine, dans la vie au quotidien. Comment j'arrive à identifier ces signaux-là?
Ça va effectivement être cette démarche de prévention, c'est-à-dire le plus tôt je vais repérer des signes. Et quand on va parler de signes, ça va être ce qu'on peut observer, ce qui se voit de l'extérieur. Et donc, plus tôt je peux repérer ces signaux d'alerte, ces signaux faibles qu'on va pouvoir entendre, on peut intervenir.
Quels sont justement les types de signaux faibles qu'on peut avoir?
Alors, l'idée, ça va être vraiment de repérer des changements. C'est chacun va changer en fonction de qui il est et de comment il se comporte d'habitude. Donc, ça va pouvoir se traduire par une différence, par exemple, dans son poste de travail. C'est cette idée de rupture avec d'habitude. Il doit y avoir, quand on cherche chez un collaborateur ou chez soi, c'est vraiment cette idée de plusieurs éléments qui peuvent alerter, donc quelque chose de multifactoriel et qui va s'étaler dans le temps. C'est pas uniquement un élément qui va changer de façon de courte durée.
Concrètement, ça pourrait se traduire du coup par un désengagement d'un collaborateur, mais effectivement, le fait qu'il soit moins motivé, moins entreprenant par rapport à son comportement habituel, alors c'est un signal qu'on peut pas laisser passer. Voilà. Donc l'idée, c'est de s'entretenir avec cette personne, d'identifier effectivement qu'est-ce qui se passe, comment il se ressent, et peut-être identifier une situation complexe.
Donc ce que vous évoquez là, Johanna, c'est que il peut y avoir des signaux, notamment en termes de changement. Ce changement, il peut être perçu par soi-même en tant qu'individu, mais il peut être également perçu par les collègues.
Par les collègues et par le manager. Aujourd'hui, on en parle peu ou on commence du coup à en parler, mais le manager a vraiment un rôle à jouer. C'est le premier acteur de la santé mentale dans l'entreprise parce que c'est celui qui est en proximité des collaborateurs et qui va pouvoir détecter les premiers signes ou signaux faibles que vous évoquiez tout à l'heure.
Donc là, ce que vous dites, c'est que finalement, les relations interpersonnelles vont jouer un rôle dans le bien-être au travail.
Oui, tout à fait. Pour moi, elles sont vraiment centrales. Si ces relations sont saines, comme on évoquait tout à l'heure dans le contexte de l'environnement de travail, ça va permettre effectivement aux collaborateurs de se sentir bien, mais effectivement permettre de libérer la parole sur des ressentis, sur des émotions, et peut-être du coup leur permettre d'identifier entre collègues ou du manager pour ses collaborateurs des personnes qui sont en détresse ou en tout cas qui sont dans un mal-être actuellement lié au travail ou peut-être à une situation personnelle, parce qu'on ne laisse pas effectivement ces problèmes à la porte de l'usine ou quel à la dommage. Porte de son bureau.
Quel dommage. Effectivement, quand on vient au travail, on apporte avec soi son bagage personnel qui peut avoir un impact, une influence sur le quotidien, sur le professionnel. Donc là, ce que vous évoquez finalement, c'est l'entourage peut aussi prendre soin en observant, en écoutant et en identifiant des changements. Au-delà de ça, est-ce qu'il y a des outils ou des techniques que vous pourriez recommander pour détecter ou même pour améliorer sa santé mentale au travail ?
Bah déjà, faire des petites choses pour soi, s'accorder du temps, des pauses, parce qu'en fait, les pauses, on a trop souvent l'habitude de ne pas en prendre, notamment dans le milieu des services où on est focus sur nos outils numériques, très sollicités par différentes choses. A contrario, pour travailler du coup aussi au sein d'usine, la pause est vraiment importante pour les collaborateurs et ils prennent le temps de prendre leur pause pour se recentrer, pour se réénergiser et pouvoir être productif. Donc voilà, peut-être s'accorder des petits temps de respiration aussi, méditation de pleine conscience, yoga des yeux.
Le yoga des yeux, c'est quoi ça, le yoga des yeux ?
Ça va permettre effectivement de travailler sur le recentrage, sur la fatigue visuelle, parce qu'on est souvent sur écran, et nos yeux fatiguent, donc ça baisse notre capacité d'attention.
Donc concrètement, je fais quoi ? Je ferme les yeux, je cligne des yeux, je fais quoi ?
Alors, il y a plusieurs types d'exercices. Effectivement, on peut travailler sur la fatigue des yeux, donc essayer de les reposer en les fermant, comme vous le dites. Mais il existe aussi, du coup, des exercices qui vont vous permettre de travailler sur la flexibilité de votre nerf optique, du coup, en faisant des mouvements.
Je vous vois regarder en haut, Johanna.
J'ai essayé de le faire en même temps que je vous parlais.
Hey, moi, de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autre raison pour la vie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je suis détestable. Je sème, je sème, je sème. Tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Eh, j'ai pas toujours été de la partie. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Tu écris notre histoire et moi je fuis. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve. Je plaide coupable, je lève mon verre. Si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne. Car je sais le mal. Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Le temps qu'il reste à nous aimer.
Je serai ce gars qui fait gaffe aux autres.
Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux?
Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux?
Que nos caresses en mêlent soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer.
Je veux que nos caresses en mêlent soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste à nous aimer. Je veux que nos caresses en mêlent soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste.
Polychrome, pour s'épanouir au travail, RCF Alsace.
On poursuit notre discussion avec Johanna Rivière et Caroline Schuster sur la santé mentale en entreprise. On a donc parlé de la santé mentale en entreprise d'un point de vue de l'entreprise, de l'employeur. On a parlé également d'un point de vue collaborateur, individu, c'est-à-dire comment je peux prendre soin de ma santé mentale, mais comment également mon environnement, mes collègues, mon manager peut prendre soin de ma santé mentale. Et quand on parle de santé mentale, j'entends souvent parler de formation premier secours en santé mentale. C'est quoi cette formation ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors les premiers secours en santé mentale, c'est vraiment très récent. Ça vient d'Australie, ça a été développé dans les années 2000 et c'est arrivé en France il y a à peine 5 ans. Donc l'idée, c'était vraiment, il s'agissait d'élargir le principe de premier secours pour les troubles psychiques. Donc c'est une formation citoyenne ouverte à tous, mais on l'a vu, Johanna nous le disait tout à l'heure, qu'on voit bien qu'aujourd'hui, la frontière entre vie pro, vie perso, on laisse pas tout sur le pas de la porte. Et il est vraiment important de former un maximum de personnes à aider.
En quoi c'est important et concrètement, quels sont les bénéfices qui peuvent être apportés par cette formation ?
Ça permet effectivement, dans le cadre de l'entreprise, de prévenir les risques psychosociaux. Ça permet aux collaborateurs formés d'identifier des situations à risque avant qu'elles ne dégénèrent, de réagir de manière appropriée face notamment à des collaborateurs en détresse psychologique ou en tout cas en mal-être, comme on l'évoquait tout à l'heure. La formation apporte vraiment un certain nombre d'outils et une démarche à suivre pour pouvoir approcher ces personnes, pouvoir échanger avec elles, être vraiment sur une écoute active et attentive pour ensuite pouvoir les orienter vers des professionnels et vers une prise en charge professionnelle. Dans cette idée derrière les premiers secours, c'est se dire comment je peux être acteur pour venir en aide à cette personne sans être le sauveur, hein, vraiment dans une posture juste et les amener à être prises en charge. Aujourd'hui, on a une problématique sur la santé au niveau de la santé mentale dans notre société, c'est que les diagnostics sont faits de manière trop tardive et donc par cette formation, on cherche à avoir des prises en charge précoces pour un meilleur rétablissement ou en tout cas une meilleure guérison de la personne en souffrance.
Et quel type de situation un secouriste en santé mentale peut gérer et à quel moment il doit orienter vers un professionnel ?
Alors du coup le secouriste ça dépend dans quel contexte. Si on reprend le contexte effectivement citoyen, j'ai quelqu'un de mon entourage qui se sent pas bien, qui s'isole, vraiment un des signes et symptômes évocateurs d'un sentiment de mal-être, on a souvent tendance à se replier sur soi-même. Je vais pouvoir aller discuter avec lui et par rapport à la discussion qu'on va avoir, repérer des signes et symptômes évocateurs qui vont pouvoir m'alerter ou pas. Et dans ce cadre où je vais avoir tendance à être anxieux par rapport à la situation, où je vais m'inquiéter de la personne, alors pouvoir lui proposer des pistes d'action et lui recommander d'aller peut-être voir quelqu'un sans le forcer. Effectivement. C'est très très important et on le voit dans la posture qu'on développe dans le secourisme, que seule la personne qui se sent pas bien a les rames pour avancer.
Donc ça, c'est d'un point de vue citoyen. D'un point de vue en entreprise, quels sont les types de situations que peut rencontrer le secouriste ?
Eh ben, on va souvent rencontrer, on parle de burn-out, alors j'aime plutôt l'idée d'épuisement. Voilà, on a souvent des personnes qui se surinvestissent dans leur travail et qui s'épuisent au fil du temps. Donc ces personnes-là, vont être soit moins productives, soit avoir une humeur changeante, elles peuvent également émotionnellement être instables, avoir des relations conflictuelles avec leurs collaborateurs du fait de leur mal-être intérieur. Donc dans ces situations-là, par exemple, le manager va pouvoir aborder avec plus de tact la personne, la prendre individuellement et aller la questionner sur plutôt ses émotions, ses ressentis, être en écoute active pour voir si la problématique vient du travail, si elle vient plutôt de la sphère personnelle ou si les deux sont interconnectés et qu'est-ce qu'il va pouvoir faire à la fois sur les conditions de travail et sur la charge de travail, par exemple, de la personne et de l'autre côté, amener la personne à aller parler à un professionnel pour se faire aider.
Donc finalement, le secouriste, il va être vigilant aux signaux qu'il va pouvoir identifier. Vous aviez parlé tout à l'heure de changement, également de surinvestissement, d'épuisement, de fatigue, peut-être des gens qui arrivent aussi en retard.
Oui, je crois que ce qui est vraiment important aussi pour compléter le propos, c'est vraiment cette notion de temps. C'est un plan qui va se dérouler dans un temps qui est beaucoup plus long. Comme le disait Joanna, on n'arrive pas avec sa cape de sauveur. Et donc, cette notion de temps et de d'ordre des actions aussi qu'on va pouvoir dérouler de manière adaptée à chaque personne.
Donc, cette formation, elle peut se faire à titre individuel, mais elle pourrait être aussi faite dans le cadre des entreprises. Comment on peut inciter ou sensibiliser les dirigeants à investir dans cette formation ?
Très intéressant, cette question. Effectivement, l'implication du dirigeant est aujourd'hui essentiel pour pouvoir déployer des actions de promotion sur la santé et le bien-être au travail. Et comment on peut les aider à se former? Déjà par une prise de conscience individuelle du dirigeant. Malheureusement, ce que je constate, c'est que cette prise de conscience, elle se fait souvent une fois que les situations difficiles ou des situations dégradées ont eu lieu dans l'entreprise, ou alors parce que le dirigeant lui-même a eu un impact sur sa propre santé mentale. Donc ce que je propose aux dirigeants d'aujourd'hui et de demain, c'est de faire de la santé mentale un pilier de croissance saine pour leur entreprise, d'investir dans le bien-être de leurs équipes pour envoyer un message clair comme quoi le bien-être de ses collaborateurs est une priorité.
Merci beaucoup Johanna Rivière et Caroline Schuster pour vos apports éclairants sur la santé mentale et ce que chacun peut mettre en place pour en prendre soin, chacun à titre individuel mais également autour de soi, collègues, managers. Un grand merci à vous auditeurs pour votre écoute et si vous souhaitez réécouter cette émission, rendez-vous sur le site internet rcf.fr/Alsace. Grazie, grazie mille à Théo Giandoni pour la partie technique de ce jour. Quant à nous, chers auditeurs et chères auditrices, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Polychrome pour s'épanouir au travail.